Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
Le thème du shiur ce soir, c'est l'Ag BaOmer. C'est-à-dire l'événement qui arrive dans quelques heures, un an par exemple. Alors on a déjà eu l'occasion, pas plus tard que la semaine dernière, de rappeler que l'Omer est une période de deuil qui a commencé avec l'épidémie qui a frappé les élèves de Rabbi Akiva. 24 000 enfants sont morts malheureusement de cette épidémie. Et l'épidémie a baissé le jour de l'Ag BaOmer. Elle ne s'est arrêtée que le lendemain. C'est-à-dire aujourd'hui, pour parler de date d'aujourd'hui, demain, jeudi, l'épidémie a baissé sensiblement, et vendredi, elle s'est complètement arrêtée. Mais comme on était sur la bonne pente, les Rahamim ont fixé que d'à partir du 33, on pouvait se réjouir. Donc dès ce soir à la tombée de la nuit, on peut écouter de la musique, on peut faire des fêtes. Pour ce qui est des mariages, il y a deux usages différents. Les Ashkenazim ont l'habitude de faire des mariages demain. Après, ils n'en font plus jusqu'à la semaine d'avant Shavuot. Nous, par contre, on n'en fait pas demain. On commence à se marier qu'à partir du Lad BaOmer, c'est-à-dire le 34e jour de l'Omer, mais après, on ne s'arrête plus. C'est le minhag sfaradique, et d'ailleurs le minhag pour également les cheveux et la barbe, que l'on garde jusqu'à vendredi matin, Bezrat Hashem. Ok, ça c'est pour le au niveau concret. Maintenant, quelle est la tonalité de l'événement de l'Ag BaOmer? C'est pas seulement l'épidémie qui a baissé et qui en fait un jour de joie. C'est l'événement majeur qu'il y a eu, qu'on appelle la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai était donc un chacham immense, qui a eu des révélations de la Kadosh Baruch Hu de la plus haute importance. Et qui qui a, comme souvent les tzadikim, a demandé à Hachem de lui faire savoir quand il allait le faire quitter ce monde. Hachem lui a donc indiqué qu'il allait partir le 33e jour de l'Omer, le 18 Iyar, et il a supplié à Kadosh Baruch Hu de lui laisser le temps de transmettre à ses élèves tout ce qu'il avait compris dans la Torah. Si bien que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pratiquement pas dormi, mangé, et pendant quasiment 24 heures, il a réuni ses élèves les plus proches et il leur a donné tous les enseignements qu'il avait découverts. En effet, d'après notre tradition, Rabbi Shimon Bar Yochai est l'auteur du Sefer HaZohar. Le Zohar qui veut dire le livre de la splendeur, qui est le livre le plus profond de la Torah. L'exemplaire ici, enfin bon, juste pour vous montrer. C'est vraiment, je l'ai mis en haut. Tu vois une collection de livres noirs qui ont une couverture en papier cellophane, transparent. Bon, moi qui ai bougé, enfin bref, en tout cas. Ici, là. Bravo. Ça. Ah. Voilà, c'est là. Laisse-la. Alors, le livre du Zohar est un livre qui n'est demandé de ne pas étudier avant un certain âge, en général au moins 40 ans. Si on est marié, et si on a déjà assimilé les autres livres de la Torah, notamment le Talmud, ce qui n'est pas évident du tout. Pourquoi? Parce que si on étudie le Zohar trop tôt, ça perturbe considérablement. Ceci pour deux raisons. La première, c'est que la formulation du Zohar est très ésotérique, c'est-à-dire, elle est pas claire. Elle est volontairement cachée pour ne pas que n'importe qui y ait accès. Deuxièmement, elle évoque des thèmes qui sont des thèmes particulièrement mystiques, comme l'environnement immédiat des anges, du trône céleste, de la vision du char d'Ézéchiel, toutes sortes de sujets qui sont bien au-delà de notre intelligence commune. Donc voilà pourquoi ce sont des livres qu'on étudie qu'avec un maître, qui a lui-même bien eu accès à ces... qui a lui-même eu accès à ces textes-là d'un autre maître, en un mot d'un maître à un élève, d'un maître à un élève, d'un maître à un élève. Je vous dis ça parce que tous ceux qui ont fait autrement, ils ont mal fini. Quand je dis mal fini, déjà dans le Gemara, on nous dit que ceux qui ont voulu étudier le Zohar alors qu'ils n'étaient pas ni assez mûrs, ni assez savants, ou bien ils sont devenus fous, fous au sens littéral, ils ont perdu la raison, ou bien ils sont morts, prématurément, ou bien ils ont complètement dévié de la Torah. Il y a même eu, et c'est un thème contemporain, il y a eu des gens qui ont tenté de, on va dire, de diffuser le Zohar, comme c'était un livre, parce que vous savez quand on parlait de Kabbale, de mystique et tout, ça attire les gens. Il y a eu donc une école, notamment, qui est née aux États-Unis, d'un pseudo-rabbin, qui a traduit le Zohar en anglais, puis évidemment en français, et qui l'a enseigné un peu à, je ne veux pas dire n'importe qui, parce que c'est méprisant, à tout le monde. Et les gens qui ont fréquenté ce monsieur sont devenus complètement déséquilibrés. Moi, je me rappelle, à un moment donné, ce monsieur, je ne l'appelle pas ce Ram, il a tenté une percée en France. Et moi, c'était l'époque où je donnais le cours hebdomadaire à la rue de la Victoire. Et j'en ai parlé là-bas, assez clairement, en disant aux gens, je vous mets en garde contre les agissements de ça, et de vous éloigner de ce type d'enseignement. Quelques jours après, pour vous donner juste un exemple, je me rendais quelque part, à l'école rabbinique pour ne pas la citer, à la rue, dans le 5e arrondissement, et une jeune fille qui s'approche de moi, et qui vient pour me frapper. Au départ, j'étais tellement surpris que je n'ai pas réagi. Puis après, j'ai failli lui envoyer un direct du roi. En fait, je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, je ne sais pas ce qui vous arrive. Oui, vous êtes contre un tel. En un mot, c'était une disciple, un peu allumée, qui m'en avait voulu d'avoir critiqué publiquement l'enseignement de ce monsieur. Pour dire, bon, ça, c'est un comportement qui n'est pas équilibré. Or, la Torah, par définition, il y a un verset qui dit qu'on dit quand on sort la Torah, Derachea d'Alchenoa. Traduction. Ces chemins sont des chemins agréables. Vechol netivotea, shalom. Et tous ces sentiers mènent à la paix. Quand il y a quelqu'un qui est un peu excité, violent, parce qu'il a déjà quitté la Torah. Donc, je dis ça pour vous donner une illustration de ce que cette étude du Zohar doit être réservée à une sorte de, non pas d'élite, mais de phase dans la vie, une fois qu'on a déjà bien assimilé tout le reste, et qu'on a compris tout le reste, alors on peut jouir de ces vérités très profondes. La raison en est, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme vous devez le savoir, il a bénéficié des révélations de Hachem, qu'il a vu que c'était un homme, Hachekadosh Baruch Hu, que c'était un homme pur, saint, honnête, et qui était capable de comprendre. Alors il lui a révélé. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dû, parce que On était à l'époque de la persécution romaine, se cacher. Et vous savez qu'il se cachait dans une grotte pendant 14 ans. Et son seul disciple qui a pu le suivre, c'est son fils. Il s'appelait Rabbi Elazar, qui était avec lui. Et pendant toute cette période, ils se sont nourris de fruits de la nature, de rien d'autre. Évidemment, ils n'avaient pas les moyens de vivre normalement, de s'habiller, de se laver, etc. Donc ils ont vécu comme des ascètes, perdus au fond d'une forêt, dans une grotte, ce qui évidemment a accentué, je dirais, le côté un peu élitiste de cet enseignement. Quoi qu'il en soit, quand Rabbi Shimon Bar Yochai devait donc mourir, et que tout ce flot de Torah est sorti de lui, il a demandé à Hachem non seulement de lui donner la date, mais de lui laisser le temps, comme je disais tout à l'heure. Effectivement, on raconte que ce jour-là, excusez-moi la voix un peu cassée, que ce jour-là, il y a eu un S, et que le soleil, merci, Baruch Atah Adonai Melech HaOlam, Shehakol Nehiya Bidvaro. Et que le soleil ne s'est pas couché à l'heure habituelle, que la journée a duré très longtemps. Jusqu'à ce que Rabbi Shimon n'ait pu tout transmettre. Parce qu'il a interdit à un maître d'emporter avec lui dans la tombe ce qu'il a compris dans la Torah. Il a l'obligation impérieuse de le transmettre. Donc voilà pourquoi ce jour, qui est le jour où ce grand Rav est Niftar, on l'appelle la Hiloula. Hiloula, ça veut dire en fait littéralement la fête, le mariage. Quel mariage? Il est mort. Le mariage de son âme avec son Créateur. Quant à Kadosh Baruch Hu, nous tous, on vient au monde, il nous donne notre âme, elle est pure. Ensuite, elle a une aventure qui s'appelle le corps terrestre. C'est la vie. Elle dure le temps qu'elle dure. Et généralement, elle est habitée par le corps, elle habite le corps, et elle est souvent pervertie par le corps. Le corps a des besoins matériels, il a des préoccupations matérielles, et l'âme, c'est tout le contraire. En fait, dans notre vie, il y a une lutte permanente entre le côté spirituel qui a soif de certaines choses et le côté matériel qui a envie d'autres choses. Et dans la mesure où on remporte ce combat sur le plan spirituel, on peut devenir un tzaddik. Si on laisse notre corps, nos envies, dominer notre vie, on va être un kiffeur. Et toute la vie, on va attendre de profiter, de profiter, de profiter de tout ce que la vie peut nous donner en oubliant qu'un jour elle va s'arrêter, que dans tous les cas, ce qu'on peut faire ici-bas, c'est tellement provisoire, éphémère, ça ne vaut pas la peine d'y investir toutes nos forces. Donc c'est un vrai combat. Je pense que si vous êtes là, ce que vous l'avez déjà au moins compris la nature du combat, qu'à défaut de gagner, il faut entretenir ce combat. Et lutter à chaque instant. Parce qu'on n'a jamais fini. Tant qu'on est vivant, on a le combat avec le Yetzer Hara qui nous tire vers le bas et le Yetzer Hara qui voudrait nous tirer vers le haut. Alors on va donc à chaque instant dire de quoi je vais m'occuper, quelle va être mon envie, ma préoccupation. Alors la grandeur de la Torah, et je crois que je l'avais déjà dit une fois, c'est le moment où j'avais de le dire, c'est qu'elle ne méprise pas le corps. Elle ne dit pas non, on n'a besoin de rien, il faut avoir envie de rien. C'est péché d'avoir envie. Non, pas du tout. On a le droit de trouver que la vie est belle, qu'il y a des bonnes choses, et qu'on en ait envie. Mais ce que vient nous dire la Torah, c'est qu'il faut canaliser ça. D'abord dans le cadre de la Torah elle-même, qui nous autorise, par exemple, la nourriture, elle autorise le mariage, elle autorise la beauté, elle recommande la propreté. Elle insiste, par exemple, sur la misa du Shabbat, dont l'essentiel, c'est Oneg, qui veut dire délice. Shabbat, on kiffe grave, mais on kiffe pas pour soi. Pour accomplir la misva dans cet environnement. Par exemple, nous ici, quand on se voit le mercredi, je sais pas vous, mais moi, je fais un kiff de folie. De vous voir. Pouvoir vous donner un enseignement. Observer vos réactions. Et vraiment, c'est un moment pour moi de réelle délectation. parce que je trouve que c'est très beau d'être à votre âge et d'avoir envie de connaître un petit peu la Torah. Et moi, je me sens un peu responsable d'une minuscule, d'une infinitésimale partie de votre avenir. Or, j'essaie en peu de temps de vous donner le maximum pour orienter vos vies. Pour moi, c'est un pari très excitant, très beau, parce que je sais que ce qu'on investit dans une jeune fille ou un jeune homme, c'est pour la vie. Moi, je crois vous l'avoir dit une fois aussi, quand ma famille n'était pas très religieuse, on était d'une famille traditionnaliste, c'est-à-dire on mangeait ce qu'on mangeait. Shabbat, on faisait le kiddush, on baissait un peu la télé pour pas qu'il y ait des interférences. Et on était une religion cool, vous voyez, à la thune. La religion de Adam Khant, quoi. Et cette approche, je l'ai eue jusqu'au moment où j'ai d'ailleurs connu ma fiancée, Madame Citruc en l'occurrence, qui elle était marocaine, Non, je plaisante, sa famille était plus religieuse que la mienne, et nous avons appris ensemble la Torah, enfin, du moins le début, les balbutiements. Puis après on s'est mis plus sérieusement, et plus sérieusement encore, et puis on a opté pour une vie de Torah. Donc ça veut dire que la construction de ma vie et de celle de ma femme s'est opérée quand on était plus jeune que vous à peine. On a commencé vraiment à s'intéresser à l'âge de 15 ans, on s'est vraiment orienté à l'âge de 17, donc plus jeune que vous. Mais moi, j'ai appris à lire l'hébreu à l'âge de 17 ans. J'ai pas honte de le dire, je suis pas fier de le dire, mais je suis surtout heureux de pouvoir le dire. En fait, avec cette évolution, la preuve est apportée une fois de plus, voilà pourquoi j'y crois. Moi, quand je donne un cours à des jeunes, je me dis, allez savoir peut-être qu'ici, parmi les garçons, demain, il va y avoir un futur grand rave. Alors, nous en étions, donc, on parlait de cette journée extraordinaire qui est due à la mort de Rabbi Shimon, et c'est un peu surprenant. Et en fait, comme je suis en train de l'expliquer, c'est pas surprenant, parce que quand on arrive dans ce monde, Hachem donne à chacun d'entre nous une neshama, une âme qui est entièrement pure. C'est ce qu'elle se pervertit dans le contact avec le corps, sauf si elle gagne le combat. Si elle gagne le combat, elle reste pure. Et si on gagne ce combat toute sa vie, ben on quitte ce monde en tant que tzaddik, avec une âme qui est aussi propre que le jour où elle est arrivée. Par exemple, Moshe Rabbeinu, son âme ne voulait pas quitter son corps. Quand Hachem lui a dit, it's time to go. Hachem a dit, why? It's so nice here. Elle ne voulait pas partir. C'est une exception. Généralement, l'âme a hâte de quitter le corps, parce que le corps, c'est des galères. Et l'âme, elle aspire à un monde entièrement spirituel. Mais quand il n'y a pas de contradiction entre le corps et l'âme, c'est le cas de grands tzadikim comme Rabbi Shimon, l'âme, elle rejoint le ciel dans une grande fête. Voilà pourquoi ça s'appelle une iloula. Bon, c'est la première raison qui fait que c'est la raison, excusez-moi, essentielle qui fait que Lag BaOmer est une grande fête qu'on célèbre comment? À part le fait que dans la prière on supprime les Tahanoun, comme le jour des fêtes, il y a également un minag, auquel d'ailleurs les rabbinim qui viendront ce soir tiennent beaucoup, c'est d'allumer beaucoup de veilleuses, de torches, et même de brasier en manifestation de joie. Parce que pour la Torah, la lumière, c'est la joie. D'accord ? Donc, ce soir, pensez-y chez vous, si vous voulez bien, d'allumer au moins une veilleuse, plus si vous pouvez, à la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'ailleurs, en allumant la veilleuse, vous pouvez prier, en lui demandant d'être votre intermédiaire auprès de Hachem pour exaucer les vœux de votre cœur. Moi, je crois énormément dans le Zchout des Tzadikim pour aider nos prières, tout ce qu'on souhaite dans la vie. Et ça, il est recommandé de le faire en présence d'une veilleuse allumée à la mémoire du Tzadik. Distribuer les feuilles là. Alors, si vous voulez bien, on va lire ensemble un petit passage que j'avais commencé à lire. Excusez-moi, je vais montrer où. Alors, il y a une feuille marquée Ivoula des Rabbi Meir, des Rabbi Shimon. Non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Voilà. Celle qui est là où il n'y a pas d'interruption de droite ici. La feuille de droite. La page de droite, enfin le côté droit de la page. Et là-bas, sur le côté, il y a des petites lettres guillemets. Caf. À peu près vers le milieu, je commence, je vais lire un paragraphe. Arav Rabbi Chaim ben Attar. Est-ce que vous avez réussi à voir où c'est ? En milieu, à peu près. Voilà, on va nous raconter une histoire qui est arrivée à un grand Rav. Il s'appelait Rabbi Chaim ben Attar, Baal Aurachaim, Aurachaim, qui est le rav qui a écrit le livre qui s'appelle Aurachaim, la lumière de la vie, qui est un très grand maître. Ayapa Amahad, Behilula, un jour il est allé en Eretz Israël, à la Hilula de Rabbi Shimon, qui est enterré à Méron, à côté de Tzfat. Chez Allah les Méron, והגיע לתחתית ההר, שעולים משם אל המקדש. Donc une fois il est là-bas, quand il était au pied de la montagne, que l'on gravit pour arriver jusqu'à l'endroit du tombeau du Rav, Yarad Me'achamo, il est descendu de l'âne qu'il chevauchait, Veya Ole Al-Yadav Ve'al-Khaglav. Et il a marché à quatre pattes, littéralement, sur ses mains et ses pieds. Et pendant toute la route, il gémissait. Comment moi, Echan Ania Shafel, comment moi, l'homme aussi vil que je suis, je répète, on parle d'un très grand tzaddik. Lui-même se traitait ainsi. Comment moi, l'homme vil, puis-je rentrer, Nichnas, le Makom, Esh, Leava, Shalhevet, Kodesh. Comment je peux rentrer dans un endroit où le feu, les flammes de la sainteté résident. Roma Palia, Shalmaalam, comment je vais pouvoir arriver dans cet endroit où se trouvent les âmes des tzadikim, un endroit aussi kadosh. Au moment de la Hiloula, c'est-à-dire au moment où on chantait et on récitait des textes à la gloire de Rabbi Shimon Bar Yochai, Aya Sameach Simcha Gedola. Il éprouvait une très grande joie. Ah, Achida, on nous dit cependant que, également, pardon, Af, Achida, Bézéfer, Moré, Bézba. Achida, c'est également un très grand rabbin qui s'appelait Rabbi Chaim David Yosef Azoulay, les initiales de Achida. Dans son livre Moré, Bézba, le doigt qui indique, c'est un autre titre de son livre, Metsayen, il précise, Yom Lagba Omer, Yarbe Simcha, Yervod Rabbi Shimon Bar Yochai, Sikhuto Yagen Alenu, Ki Hu, Yom Ha'ilula Dildilem, ונודע שרצונו הוא שישמח ביום הזה. Et le Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé que l'on se réjouisse ce jour-là, le jour de sa mort. V'yesh mi shenoheg lasot animun balayl yog baomer. Bien, certains étudient pendant toute la nuit avec un minyan complet. L'ilmod שבחי רבי שמעון ברוך הוא. המפוזרים בזוהר, donc ils sont contenus dans le Zohar, moi j'avais, puisque maintenant il est décédé, un petit cousin, parce que nos grands-mères étaient sœurs, il s'appelait le Rav Getz, le Rav du Kotel, je ne sais pas si certains ont entendu parler de lui, qui était Mekoubal, qui a étudié la Kabbalah. Et lui, quand il parlait de Rabbi Shimon Bar Yochai, il tremblait littéralement. Il dit, on ne réalise pas de qui on parle. De quelle sainteté, de quel kedusha on est en train de faire état. הולכים מכל מקום בארץ ישראל, על דברו, vient de toute Israël sur sa tombe. Je ne sais pas si vous y étiez déjà une fois, mais c'est impressionnant. Encore aujourd'hui, on dit qu'il y a des centaines de milliers de personnes. Quelque chose absolument faramineux. Il est impossible d'arriver près de la ville. Hein?
On peut, mais bon, le matin. Il y a du monde, quoi.
Tu es allé le jour même d'Agba Omer? Hein? Ah, Jean, tu as blasé. Hein. Ouais. Pas de souci. Alors, si moi je vais aller un jour, je dis je suis ton copain.
J'ai mes enfants.
Alors, ici, il y a encore de nombreux grands rabbinim qui sont allés là-bas. Comment ils ont été très émus de leur pèlerinage sur place. Et alors, il y a un minag, entre autres, qu'on fait à l'Agba Omer. C'est le jour où on coupe les cheveux des petits-enfants. Vous savez qu'il y a une tradition qui est basé sur un verset de la Torah qui nous dit, là on est dans la deuxième feuille, l'otakifu pead roshrem, vous ne couperez pas les coins de votre chevelure, les péotes, comme on les appelle aujourd'hui, et qui allaient raser les cheveux de leurs enfants, quand ils arrivaient à l'âge de 3 ans, là-bas sur le quai vert même de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi je l'ai fait pour un de mes petits-enfants. Ici l'exemple du grand rabbinim Rabbi Chaim Vital, au nom du Arizal, qui lui-même le faisait comme ça, qui ont donc procédé à ce minhag. Et alors, on coupe les cheveux et on laisse juste les péotes qu'on fait le néder de conserver toute sa vie. Voilà pourquoi on va être certain, puisque la Torah s'exprime comme ça, elle dit vous ne détruirez pas les coins de votre chevelure. Alors détruire, on a compris d'après le Shulchan Aruch, ça veut dire ne pas se raser avec un rasoir ici, au niveau de la tempe, des deux côtés, en haut du menton et tout à fait en bas du menton. Il y a 5 points qu'on appelle PA. 3, 4 et 5. Certains disent qu'il ne faut pas du tout éplucher de la vie. Donc voilà pourquoi certains poussaient des cheveux. Des péotes très longues ici, et la barbe, sans jamais la toucher. Parce que la Torah a bien dit, l'autre à qui il faut. Alors, il y a un autre minhag, c'est que les enfants construisent des arcs pour lancer des flèches. Pourquoi? Parce qu'un arc en hébreu, ça se dit keshet, ça désigne l'arc-en-ciel. Et on dit que de tout le vivant de Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait jamais eu un arc-en-ciel. Pourquoi, à votre avis? Voilà, c'est-à-dire, exprime-toi plus clairement.
À chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel, c'est pour se souvenir de l'alliance avec Noir.
Très bien. Rappelez-vous quand Hachem a envoyé le déluge sur la terre, parce que les habitants de la terre ont été immoraux, et Hachem a fait une promesse. Il a dit, je promets que je ne ferai plus de déluge. Mais ce n'est pas parce que les gens sont des tzadikim, parce que je l'ai promis. Et en signe de cela, il y a un arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel, comme est apparu l'arc-en-ciel à l'époque de Noir. Et Hachem a dit, je fais sortir cet arc-en-ciel après l'orage qui a duré 40 jours et 40 nuits, de ne plus détruire le monde, si bien que lorsqu'on voit un arc-en-ciel, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu aurait dû détruire le monde du fait du comportement des hommes. Et vous savez que lorsque l'on voit un arc-en-ciel, on fait une bracha. Quelqu'un la connaît? Hein? Oui, Zohar Berit Sedevu, Veneman Mivrito, Vekayam Bemahamaro. Béni soit Dieu éternel, qui se souvient de l'alliance, et qui est fidèle à ce qu'il a promis, et qui maintient sa parole. Donc, c'est-à-dire, quand on voit un arc-en-ciel, on fait pas un kiff. On a des boules. On dit, bon, on n'est pas passé loin. Eh bien, on dit que du temps de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas eu une seule fois un arc-en-ciel dans le monde entier. C'est-à-dire que grâce à son mérite à lui, c'est pas que les gens étaient plus des tzadikim, lui, par son mérite, il protégeait le monde tout entier. Voilà. On a encore 5 minutes. Alors, il y a un grand maître qui s'appelle le Maharsham, qui explique comme ça, écoutez bien. Il dit, les jours de l'Homère correspondent à la vie de l'homme. Chaque jour, c'est un an. En fait, un homme est tenu comme responsable de ses actes entre l'âge de 20 ans. On peut être à Yamita si on n'a pas mérité. Et l'âge de 70 ans, qui est normalement le temps qui nous est dévolu. Donc, il y a 50 années de vie pleine. 50 années correspondent aux 50 jours qui séparent Pessah de Shavuot. Ce qui se passe, c'est que le jour de l'Akba Omer, on a passé les deux tiers de la période de l'Omer. En effet, on fait 49 jours divisés par 3. Combien? C'est pas divisible. Au 48.
Par 3 non plus.
Par 3.
Par 3, pardon, ça fait 16.
Combien?
16.
T'es sûr?
48 divisé par 3, c'est 16.
Alors, bon, les deux tiers. 32. C'est le jour d'aujourd'hui de l'Omer. On a passé les deux tiers. Donc on approche, on rentre ce soir dans le troisième tiers de l'Omer. Ça change quoi? Il y a un grand Chacham, Mara de Prague, qui cite une Gemara qui est dans Berachot, qui nous dit la chose très intéressante, qui dit la chose suivante. Il dit, la nuit est divisée en trois gardes. La nuit, évidemment, il est impossible de percevoir le moindre phénomène astronomique qui nous indique que la nuit est arrivée à son milieu, à son tiers. Ou... Le jour, bon, il y a le soleil. Dès qu'il arrive à midi, il est à la verticale d'entre nous. Puis après, il passe à l'ouest. Est, zénith, ouest, d'accord? Et la nuit, quoi, en fait? Aucun moyen de diviser. Notre tradition dit que la nuit est divisible en trois parties. Et que chacune de ces trois parties, il se passe des choses. La première partie de la nuit, on entend l'âne qui brève.
Et les chiens qui aboient.
La deuxième partie de la nuit, les chiens qui aboient. Et la troisième partie de la nuit, les bébés qui se réveillent.
Ou la femme qui parle avec son mari.
Et non, donc dès que le bébé il se réveille, elle dit à son mari, c'est à toi. Donc il commence la maisonnée commence à s'éveiller, pour parler en bon français. Mais en fait, ça veut dire que le troisième tiers, ça annonce déjà les prémices de l'aube. D'accord ? Il commence à y avoir les premiers frémissements du jour qui va poindre à l'est. Bah, bah, bah. D'accord ? Et en fait, si on voit ça par rapport à l'Omer, on voit que le troisième tiers de l'Omer, c'est l'Akbar Omer, donc qui correspond au troisième tiers de la nuit qui sépare Pessah de Shavuot et qui bénéficie en fait de l'éclairage, comme la nuit bénéficie très très timidement et progressivement de l'aube qui va naître, le ciel se teinte très progressivement et très légèrement jusqu'à devenir lumineux. C'est dû, en fait, vous le savez, au nombre de degrés que le soleil fait avec l'angle du soleil. Mais ça va éclater, je crois. C'est ça, le déluge, ça a commencé comme ça. Hein. Tout le monde m'en se perdu, m'inquiète, ça fait au moins 10 fois qu'il passe là. Je vous regarde. C'est peut-être un espion. Et sois sérieux. Je disais donc que.
Nous sommes dans la troisième garde qui reçoit la
lumière. La troisième garde, ça veut dire que on reçoit déjà la lumière du jour indirectement. Comme dans l'aube, le ciel se teinte très progressivement. Là-dessus, il y a une très belle texte de l'Agmara de Rabbi Yossi. On raconte à l'Agmara qu'un jour, Rabbi Yossi à Galilée, un maître s'appelait comme ça, Rabbi Yossi le Galiléen, il vivait en Galilée, qui marchait la nuit parce que les Romains traquaient les rabbinim pour les empêcher d'étudier. Et un rave qui était pris en train d'étudier était condamné à mort immédiatement. Donc les rabbinim se cachaient. Alors, il y avait donc un rave qui s'appelait Rabbi Yossi, qui se cachait, qui partait la nuit en pleine nature avec ses élèves pour aller leur donner un cours de Torah. Il faut mesurer la chance qu'on a aujourd'hui quand même. Même avec François. Pouvoir étudier la Torah librement jusqu'à nouvel ordre. Si Dieu veut. Donc eux, ils étaient obligés de se planquer. Et ils marchaient comme ça la nuit avec ses élèves. On imagine la scène. Et puis peu à peu, ils voient très lentement, ils voient l'aube qui apparaît à l'horizon. Il dit à ses élèves, vous voyez l'aube qui pointe lentement, car tiye geulatam shel Israël. Ainsi en sera-t-il de la délivrance du peuple juif à la fin des temps. C'est-à-dire, elle viendra peu à peu. Anna, ça te fait rigoler. Elle a pas quoi? C'est... Ça fait rigoler. Mais je lui dis, comment ça? Ah ben c'est là. Comment ça arrive? Alors, de la même manière que le jour pointe lentement, ainsi en est-il, bonsoir. Ainsi en est-il de la Géoula. Maintenant, en ce qui concerne l'image de Shavuot, de Lag BaOmer, puisqu'on est dans le troisième tiers, déjà, la lumière de la Torah qui éclaire le jour de Shavuot, jusqu'à une sept jours de la révélation, commence à éclairer le peuple juif. Voilà pourquoi c'est une fête de Torah. Parce qu'en fait, on perçoit déjà un peu mieux la Torah qui va nous être donnée le sixième jour du mois de Sivan. Mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie d'avoir été présents.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, tous les enseignements de judaïsme par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.